Ah oui. Voilà, bonjour à chacun. Merci à votre pasteur et au conseil de l'Église de nous faire confiance pour nous accueillir. C'est une confiance qui nous honore. Et je suis très fier de compter Christophe parmi mes amis. Voilà. En tout cas, on avait un bon temps aussi vendredi soir, et puis hier matin, pour ceux qui étaient là, et on a pu passer du temps dans la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, et c'est un point essentiel de la vie chrétienne, et je suis toujours un petit peu chagrin. De devoir constater que aujourd'hui dans le corps de Christ en général la Bible est moins à l'honneur dans la vie des chrétiens en général qu'il y a quelques dizaines d'années en arrière. Alors vous allez dire que voilà que je parle comme les anciens combattants de mon temps, c'était voilà. Mais je dis souvent que je pense que l'Église évangélique francophone a fait des progrès dans certains domaines. On est un peu moins légaliste qu'on était il y a 40 ans par exemple. Où les églises sont un peu moins fragmentées, le corps de Christ est moins séquencé avec des il y avait dans le temps beaucoup de clivages entre les églises et des fossés presque infranchissables d'une église à l'autre, chacun était dans sa petite boutique et ignorait les autres. Donc ça, sur ça, on a fait des progrès. On est bien mieux qu'il y a 40 ans. Mais il y a 40 ans, dans la vie de tous les croyants, de tous les chrétiens, tous les disciples, il y avait la Bible dans le quotidien. Et je crois que sur ça, honnêtement, je crois que sur ce point, l'Église aujourd'hui, globalement, est nettement moins bien qu'à ce moment-là. Et il y a 40, 50 ans, les disciples pensaient, chaque disciple de Christ pensait que ce n'est pas possible de passer une journée sans lire la Bible. Et aujourd'hui pour beaucoup, c'est bien moins que ça. Et quelques-uns, pas en Suisse, hein, mais dans d'autres pays, certains se contentent de lire les versets qui sont projetés, et leur Bible reste étrangement neuve après beaucoup d'années. J'ose pas vous demander de montrer vos Bibles. Peut-être quelques-uns n'en ont pas du tout. Où elles sont à la maison, elles sont sur la cheminée quelque part. Et quelques-uns ont des vieilles Bibles étrangement neuves. Et c'est pas du tout bon signe. Hein. Voilà. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai écrit quelques livres qui sont sur la table au fond là-bas. C'est mon attaché commercial qui s'occupera de vous à la sortie, si vous voulez. Donc vous les connaissez à la plupart. Le premier, c'était quoi? C'était le Serpent vaincu. Ça, c'est un livre qui parle de Jésus, ce que Jésus a fait pour nous. On a parlé un peu de ça hier matin. Sur tout ce qui concerne le salut, je ne veux pas être long, ça c'est « Vers la gloire par l'humilité », c'est un livre qui parle de l'orgueil, de l'humilité, tout ça, c'est un livre facile à offrir. Vous dites à quelqu'un « J'ai trouvé un bon livre qui parle de l'orgueil, j'ai pensé à toi, pauvre con, comme ça. » Les comportements chrétiens, c'est un livre qui aborde les questions qui se posent en termes de « est-ce qu'un chrétien a le droit de ?» Par exemple, par rapport au corps, le vêtement, la nourriture, est-ce qu'un chrétien peut manger de la viande halal, un kebab par exemple, est-ce qu'il peut travailler au noir, est-ce qu'il peut porter une arme dans le cadre de l'armée, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur le don d'organes, voilà, toutes des questions d'éthique. Hein. Donc, Voilà. Et puis, ça, Dons et offrandes, c'est une petite étude sur les finances dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit sur les finances, en particulier la notion qu'on a appelée de la dîme. Qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Voilà. Et puis le dernier, La malédiction de l'arbre, ça c'est notre gendre qui a écrit ça. C'est un roman chrétien, bien sûr, hein, destiné à la jeunesse, hein, mais c'est vraiment un livre d'évangélisation. Et beaucoup d'adultes qui l'ont lu avaient du coup réellement envie de chercher le Seigneur. Voilà. Donc, voilà, Brigitte vous donnera des renseignements si vous voulez après. Voilà. Ça va? Alors, on n'a pas trop de temps ce matin parce qu'on m'a dit qu'à 14h, tout le monde doit rentrer chez lui. Je regarde l'horloge. Et donc, je serai, rassurez-vous, je serai court. Hein. Mais je voudrais parler ce matin. Mon titre, c'est « La puissance, le sang de Jésus-Christ, puissance surnaturelle ». Comme ça, on va rester un petit peu dans le cadre des thèmes qu'on a traités vendredi soir et hier matin. Je voudrais parler du sang de Christ. Cette notion de sang, c'est une notion qui est pas, pour aujourd'hui, pour nos contemporains, qui nous est pas familière. D'abord parce que dans la vie pratique, très peu d'entre nous ont l'occasion d'élever des animaux, donc de temps en temps de couper le cou à un canard ou quoi, comme on faisait dans le temps. Donc ça ne nous est pas familier et c'est même quelquefois un petit peu, ouais, je ne vais pas dire répugnant, mais la notion du sang, c'est... Ouais, c'est quand j'étais tout petit, quand j'étais jeune plutôt, j'étais chez mon grand-père et puis mon oncle, hein, avait une ferme, une petite ferme en Haute-Savoie. Vous savez, ces petites fermes minuscules où on vivait en autarcie, on mangeait et on s'occupait de tout ce qu'on pouvait faire en autarcie, quoi. Ils faisaient leur cidre, ils faisaient le pain, ils faisaient la charcuterie, ils faisaient les légumes, ils faisaient tout, quoi. Il y a que pour les chaussures que c'était un peu difficile, mais sinon on faisait tout, quoi. Et je me rappelle tout petit de voir quand on coupait le cou à un coq, par exemple, hein, et que sans tête, il s'envolait, c'était un peu curieux. Il y en a qui ont vu ça déjà, hein, OK. Vous êtes des ruraux, les Suisses. Et donc, c'était spécial. Après, en version plus gore, il y avait la fois où en hiver on tuait le cochon, alors il fallait le sortir, on le sortait, il voulait pas sortir bien sûr, lui il était habitué que à la chaleur et à la pénombre d'un endroit bien tempéré, et tout d'un coup pour l'oxyre il fallait le sortir dehors, il voulait pas sortir, et puis après on faisait ça toujours, c'était en hiver vers février par là, donc il y avait de la neige dehors, il y avait le sang qui coulait partout, j'en vois qui font c'était très gore, hein. Ma tante brassait le sang dans la cuvette pour pas qu'il... voilà. Et la notion du sang est une notion curieuse, parce que d'un côté elle évoque forcément la violence, la mort, etc. Et puis d'un autre côté, il faut reconnaître que dans la Bible, la notion du sacrifice, donc du sang, c'est la valeur numéro un dans la Bible. Si dans la Bible, vous enlevez de la Bible, vous enlevez tout ce qui est en rapport avec le sacrifice, j'allais dire quasiment, il vous reste la couverture. Parce que tout est en relation avec le sang. Tout est en relation avec le sacrifice. Hein. Alors, il faut que nous soyons au clair avec ça. Et on a chanté ce matin des chants qui se rapportent à ça, qui parlaient du sang de Jésus. Et je voudrais ce matin faire un petit, un petit tour avec vous dans la parole de Dieu. J'aimerais commencer dans la Genèse pour montrer que dès les premières pages de la Bible, hein, la notion de sang est devenue occupe les pages. Genèse 4, 8 ici, c'est le sang du crime. Hein, Caïn et Abel, donc Abel a été victime de l'assassinat de la part de son frère. Genèse 4, 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Ben, il répondit, mais j'en sais rien, moi, est-ce que je dois garder mon frère? Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est cette expression que j'ai trouvé extrêmement curieuse. La voix du sang. La voix du sang de ton frère crie. Est-ce que le sang a une voix pour crier? La voix du sang de ton frère crie. Waouh, c'est curieux comme expression, hein? Et le Nouveau Testament fait un rappel cette expression pour dire que c'était pas seulement l'assassinat d'un innocent, mais que derrière l'assassinat de cet innocent, il y avait aussi comme une valeur prophétique. Si vous allez dans Hébreux 12, l'auteur rappelle cette notion, Hébreux 12, 24, voilà, Hébreux 12, 24, hein, on parle de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel, la voix du sang d'Abel criait, mais la voix du sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Donc il y a un parallèle, un rapprochement. Abel, le juste, l'innocent, a été tué par le méchant, par l'incroyant. Mais comme Christ, le Fils de Dieu, comme Christ l'innocent, le médiateur, hein, a été tué à cause des méchants, pas directement par tous les méchants, mais il a été tué à cause d'eux. Jésus, lui-même dans Matthieu, a reparlé du sang innocent répandu sur la terre, et il a dit « depuis le sang d'Abel, le juste ». Et ce premier point, c'est de montrer donc que le sang est la valeur numéro un. Le deuxième point, je saute directement à Jésus, à la passion, au moment de la passion, et on arrive à l'histoire de Pilate. Vous savez que Pilate, devant la demande des sacrificateurs, des chefs du peuple de sacrifier Jésus, Pilate savait que Jésus était innocent. Et pendant tout un temps, il a tout fait pour ne pas condamner Jésus. Non pas parce qu'il était lui-même désireux de faire la justice. Par ailleurs, c'était un tyran lui-même, sanguinaire, injuste, tout ça. Mais ce qui l'agaçait, ce qui l'énervait, c'était de devoir prendre une décision qu'on lui imposait, une décision dans laquelle il était lui-même manipulé. Alors c'est ça qui l'énervait. Et puis un petit peu, il avait une sorte de crainte un peu superstitieuse. Mais quand il a été obligé de condamner Jésus pour une question de politique, hein, puisque les responsables juifs lui ont dit, cet homme s'est dit roi. S'il se dit roi et que César à Rome ne l'a pas nommé roi, donc c'est un rebelle. Et si toi tu laisses un rebelle fonctionner sans le condamner, c'est que tu cautionnes, donc tu deviens un gouverneur qui cautionne la rébellion contre Rome. Alors Pilate a dit, bon, jusque-là j'avais envie d'essayer de sauver ce pauvre type, mais maintenant si ça devient un problème pour ma propre carrière, alors là, Donc, il a fait amener de l'eau et puis il s'est lavé les mains, et tout en le condamnant. Alors, est-ce que ce qui, à mon sens, est le comble de l'hypocrisie, quoi, hein, condamner quelqu'un à mort tout en s'en lavant les mains, il faut reconnaître que c'est quand même un comble, hein. Et il a dit, je suis innocent du sang de ce juste. Il suffit pas de se dire innocent pour être innocent, hein. Beaucoup de gens se disent innocents tout en ayant fait des choses, et ils se disent innocents parce que comme il y a eu des circonstances qui les ont un peu poussés à ça, alors ils disent « je suis innocent ». Peut-être c'est le cas, non, pas ici. Mais imaginons que quelqu'un peut-être se sent reproché dans sa conscience par un péché, et jusque-là il a toujours trouvé des excuses en disant « oui, ben, c'est les circonstances qui m'ont obligé ». Non, non, la décision que tu as prise est... C'est toi qui l'as pris. D'accord ? Tu peux te laver les mains, mais la décision que tu as prise, c'est toi qui l'as pris. OK ? Non, non, il faut faire attention. Matthieu 27, 25. Et on voit une imprécation curieuse de la part des accusateurs, hein. Quand Pilate a dit « je suis innocent », alors ils ont répondu, les responsables du peuple ont répondu « que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Que son sang retombe sur nous. C'est-à-dire qu'ils disaient ça en disant, pour dire à Pilate, c'était pour le tranquilliser. Ils ont dit « non, non, te tracasse pas, c'est pas ton problème, toi, tout ce qu'on te demande, c'est de le condamner, parce qu'on est obligé de passer par toi, administrativement. Mais te tracasse pas, s'il y a des répercussions, on les prend, on les assume. » Alors, est-ce que cette imprécation, cette malédiction, en fait, c'est accompli? Oui, et on peut le dire peut-être de deux façons. Certains pensent qu'il faut le voir d'une manière complètement négative. Comment cette malédiction s'est accomplie sur eux? Bien, elle s'est accomplie moins d'une génération plus tard, quand les soldats romains sont revenus en 70 et que toute la ville a été détruite, le temple a été incendié, tout a été pillé, les gens ont été massacrés, etc. Donc, maintenant, on peut aussi le comprendre d'une manière, à contrario, d'une façon positive, en disant, oui, le sang de Christ qui a été répandu est retombé sur nous. Il est retombé sur nous pour nous purifier de nos péchés si nous croyons en son nom. Il fallait qu'il soit versé. Le sang, troisièmement, le sang de Jésus a été répandu pour nous. 1 Pierre 1:2. Vous voyez, je vous fais tourner les pages de vos Bibles si vous en avez. Si vous n'en avez pas, votre pasteur vous en offre une à la sortie. Voilà, tu ne savais pas, hein? Ah ben voilà. 1 Pierre 1:2. Pierre parle de ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ici, encore une fois, une notion un peu curieuse dans le Nouveau Testament, c'est la notion de l'aspersion du sang de Christ. Hein. Pourquoi l'auteur Pierre a parlé de l'aspersion du sang de Christ? Parce que c'est une image qui est prise dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quelquefois, dans les grandes cérémonies avec tout le peuple, le grand sacrificateur, après que les sacrifices ont été offerts, alors il prenait avec un petit buisson qu'on appelle de l'hysope, il trempait dans le sang et il faisait symboliquement l'aspersion du sang sur le peuple. Il prenait dans le sang et faisait l'aspersion du sang. C'est, l'image, c'est de dire que c'est accessible à tout le monde. L'image, c'est de dire que c'est pour tous, c'est répandu sur tous. C'est quelque chose qui est à la portée de chacun. C'est accessible. Maintenant, c'est à la portée d'eux. Mais ça devient nôtre si on le prend par la foi. Et j'arrive au fait que le sang de Jésus, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. C'est l'essentiel, c'est que c'est le sang de Jésus qui purifie du péché. On peut lire dans Jean 1 Jean 4 1 Jean 1, 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Est-ce qu'on peut redire ça ensemble ? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Encore une fois, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Encore une fois, le sang... Eh bien voilà, c'était facile. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Comme je le disais l'autre jour, de tout péché, ce tout veut dire tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché qui soit hors d'atteinte chez un croyant. Il n'y a aucun péché qui soit hors d'atteinte du sang de Jésus pour être purifié. Quelquefois, certains croyants sont en difficulté avec ça. Parce qu'ils se disent, mais moi, le péché que j'ai fait est trop grave. Ou peut-être quelqu'un est en souci parce qu'il se dit, mais j'ai récidivé. Alors Dieu doit être maintenant fâché, il s'est impatienté, il en a marre avec moi. Alors est-ce que le sang de Jésus me purifie ? Non, c'est valable pour les autres. Ou certains se disent, mais est-ce que j'ai suffisamment... mérité, est-ce que j'ai suffisamment fait de bonnes œuvres pour que Dieu me l'enlève, hein? Ou est-ce que je suis assez changé, etc. Et quelque part, certains croyants sont en difficulté avec le fait que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ils ne sont pas tout à fait sûrs. Alors je voudrais vraiment vous le redire, que le sang de Jésus, chez un croyant, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Hein? Hébreux 9, 22 complète ça en disant que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, Hébreux 9, 22. Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire que dans la Bible, dans la relation avec Dieu, la purification des péchés ne vient que par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire que ce qu'on a dit, quand on dit le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, on affirme que tous les péchés peuvent être expiés par le sang de Jésus. Mais ça veut dire aussi qu'aucun péché ne sera pardonné autrement que par le sang de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Toute personne qui essaierait d'obtenir de Dieu le pardon de ses péchés par autre chose que le sang de Jésus est sur une fausse voie. Vous me suivez ? Il n'y a pas de pardon autrement que par le sang de Jésus. Je crois qu'il y a quelquefois des personnes, chrétiens ou autres, qui essayent quelque part de mériter le pardon de leurs péchés. Vous avez des gens qui sont des fois coincés par un péché et ils se disent « Oui, ben, dans ce domaine-là, je suis un peu coincé. Mais je vais faire quelque chose pour me rattraper. » Et alors, dans d'autres domaines, ils se donnent à fond pour la cause de Dieu. Par exemple, quelqu'un est coincé dans un péché et puis parallèlement, il se dit « Mais je vais faire de l'évangélisation. » Alors il fait de l'évangélisation à fond. Il dit comme ça, Dieu voit que j'essaye de faire quelque chose. Et quelque part, il essaye de faire une espèce de somme algébrique. Il essaye de compenser, il essaye de se rattraper, il essaye de mériter le pardon de ses péchés par quelque chose. Tu es dans une fausse voie. C'est un cul-de-sac. Tu n'arriveras nulle part. Le pardon des péchés ne sera jamais, jamais, jamais dans aucune bonne œuvre, ni humaine, ni morale, ni de service, ni de quoi que ce soit. C'est impossible. Si ça avait été possible, ça aurait été possible dans la loi de Moïse, mais la loi de Moïse a été remplacée par le sacrifice de Christ. Hein. Il n'y a pas de pardon autrement que par le sang de Jésus. Si quelqu'un essaye de croire autrement que ça, tu es dans une séduction, un mensonge qui va t'empêcher de recevoir gratuitement le pardon de tes péchés par le sang de Christ. Hébreux 10, 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Oui, le sang des animaux dans l'ancienne alliance ne pouvait pas enlever les péchés, couvrait les péchés. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? La différence qu'il y a entre le sang des animaux dans l'ancienne alliance, dans la loi de Moïse, et le sang de Jésus. C'est quoi la différence? La différence c'est que dans la loi de Moïse, le sang des animaux couvrait les péchés. Quand vous couvrez quelque chose, vous ne pouvez plus le voir. Mais la chose existe toujours. Ça va? Si vous couvrez, on prend un drap, bon, et puis vous mettez un drap sur quelque chose. La chose ne se voit, on la voit plus, mais elle est dessous. Le sang des animaux couvrait les péchés. C'est une grâce que Dieu faisait. C'est une grâce. Dieu dit par grâce, je désire ne plus voir vos péchés. Je ne veux plus les voir. Donc il les couvrait. Mais les péchés existaient encore. Ce qui fait que il fallait renouveler les sacrifices tout le temps. Le jour du grand pardon, tout le monde était content. Le sacrificateur sortait du tabernacle, il était content, il disait le pardon des péchés. Tout le monde était content, il sautait de joie, mais l'année d'après, on recommence. Et on recommençait tout le temps. Et de temps en temps, le grand sacrificateur avait encore la mauvaise idée de mourir, il fallait aussi le remplacer. Donc le système ne fonctionne pas. Mais Jésus n'est pas venu pour couvrir nos péchés. Jésus est venu pour détruire les péchés. Sous le sang de Jésus, nos péchés ne sont pas couverts. Sous le sang de Jésus, nos péchés ont été dissous. Ils ont disparu, ils n'existent plus. Ils ne sont plus. Ils n'existent plus. Dieu les a rejetés. C'est pourquoi il n'y a pas... C'est pour ça que quelquefois, des gens à l'extérieur nous reprochent quelquefois à l'Église d'être, à l'Église évangélique, à l'Église de Christ, d'être un petit peu, ils nous disent, vous avez pas assez de tolérance. Hein. Vous présentez votre système chrétien comme étant le seul. Eh bien oui, parce que Christ est le seul qui a pris nos péchés, il est le seul qui a enlevé nos péchés. Il n'y a pas de pardon des péchés, ni dans l'islam, ni dans le bouddhisme, ni dans l'hindouisme, ni dans le shintoïsme, ni dans tous les ismes que vous voudrez, parce que Christ seul a pris nos péchés. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris nos péchés. Donc, la question, ce n'est pas de savoir s'il faut être ouvert ou pas ouvert. La question, c'est que la vérité, c'est la vérité. Comme disait Napoléon, un fait, c'est têtu. C'est une vérité. C'est une vérité. Aucun péché n'est enlevé, n'est purifié autrement. Cinquièmement, je suis à 5 hein, déjà. Vous voyez, on avance vite. Hein, sur 37, on y a... Donc, cinquièmement, notre conscience aussi doit être purifiée. Hébreux 9, 14. Hébreux 9, 14. À combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Voilà une notion, complémentaire. C'est que si nos péchés sont effacés devant Dieu, alors il faut aussi qu'ils soient effacés à nos propres yeux. C'est-à-dire que notre conscience doit aussi être purifié. Parce que si un croyant, si un disciple de Jésus a foi en Dieu pour le pardon de ses péchés, par le sang de Christ, hein, ses péchés sont enlevés. Mais si lui-même n'est pas conscient que ses péchés sont enlevés, il continue de vivre avec le sentiment de culpabilité. Même si ses péchés sont enlevés, mais s'il n'y croit pas, sa conscience n'a pas été purifiée, alors il continue de vivre avec la culpabilité, d'où un manque évident de bien-être, de valeur, d'assurance. Il est complètement, il est toujours incertain, il ne sait pas louer Dieu, il ne sait pas comment adorer Dieu. Donc il faut purifier notre conscience. Le péché a été purifié devant Dieu, mais il faut nous-mêmes que nous purifions notre conscience. C'est pour ça que je dis toujours aux chrétiens, ne laissez pas vos péchés sans les amener à Dieu. Il faut se purifier du péché. Quand quelqu'un a péché, eh bien, il doit le dire à Dieu. Alors, pour certains, ça fait un peu bizarre, parce qu'ils disent, mais pourquoi est-ce qu'il faut le dire à Dieu, puisque Dieu le sait déjà? Non, c'est une vraie question quand même, hein? Mais quand tu vas dire à Dieu ton péché, ce n'est pas pour lui apporter une information. Oui. Il y en a qui pensent que quand on va dire quelque chose à Dieu, on lui confesse un péché, alors Dieu tout d'un coup ulcéré. Quoi? Tu as fait ça? Oh, ça, alors. Mais non, Dieu sait déjà. Quand on confesse nos péchés, on ne lui apporte pas une info, il sait déjà. Il l'a su à l'instant même où on l'a fait. Quelquefois même, il l'a su. Il l'a même su avant qu'on le fasse. Parce qu'il savait que nos pensées étaient déjà en train de concocter le mal. Ok? Alors pourquoi lui dire? Eh bien, on le dit parce qu'en le disant devant Dieu, devant sa face, on montre qu'on ne veut pas le garder à l'intérieur. On montre qu'on veut le faire sortir. Alors à ce moment-là, on lui dit, Seigneur, je veux que ça sorte de moi. Je veux être lavé, purifié, tranquillisé. Je ne veux plus vivre avec ça. Seigneur, débarrasse-moi de soi, purifie-moi. Seigneur, je ne le ferai plus jamais. Mais donne-moi la force. Merci de m'avoir pardonné. Ça s'appelle la repentance. Ce n'est pas juste la confession. La confession, si c'est juste confesser pour confesser, ça ne sert à rien. On peut confesser et puis recommencer. Quand j'étais gamin, on allait à confesse dans une religion que je ne nommerai pas, qui restera secrète entre nous. Mais confesse, c'était juste, voilà, on confessait pour confesser, quoi. On sortait de là, on recommençait, parce qu'il n'y avait pas de conviction, parce qu'il n'y avait pas la conscience d'avoir été pardonné. Et ce qui est difficile chez souvent pour les gens qui se convertissent, au moment où ils se convertissent, ils sont conscients qu'il faut tout dire à Dieu. Mais quelquefois chez les chrétiens, après un temps, eh bien, ils vivent plus avec cette conscience, avec cette conviction de devoir tout apporter à Dieu. Donc quand certains chrétiens font des péchés, au lieu de venir les traiter devant Dieu, ils essaient juste de les oublier. Un chrétien a fait une bêtise, il se dit « Oh, j'aurais pas dû faire ça, bon, allez, je le ferai plus. » Mais ça, c'est inutile, parce que tu n'as pas réglé. Pour que ce soit réglé, il faut que tu purifies ta conscience. Donc, tout péché doit être amené devant Dieu. Tout péché, il faut le dire à Dieu. Il faut lui dire, j'ai fait ça. Il faut le dire, le prononcer. Quelquefois, il y a certains péchés, quand on les dit à Dieu, même si on est tout seul entre lui et nous, comme ça, eh bien, on a les oreilles qui deviennent rouges. Parce qu'on a honte. Et ça fait partie du traitement. C'est nécessaire pour qu'on sache que Dieu nous a pardonné. N'essayez jamais de régler un péché en vous disant par vous-même, je ne le ferai plus, je le ferai plus. Allez, je le fais plus. Des fois, on tape du pied pour être sûr qu'on a pris de bonnes décisions. Je le ferai plus. Mais ça ne sert à rien. Parce que la force n'est pas en toi. On n'est pas dans Star Wars, là. La force, elle vient du Seigneur. Et c'est parce que le Seigneur te purifie que le sang de Jésus te donne la force. Il faut l'apporter, il faut lui dire, il faut prendre du temps. Et parce que, sixièmement, de ce fait, par le sang de Jésus, on est maintenant en paix avec Dieu. Colossiens 1, 20. Colossiens 1, 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. En faisant la paix par le sang de sa croix. Nous avons la paix avec Dieu par le sang de Christ et par rien d'autre. Et tous les gens qui ne sont pas sous le sang de Christ ne sont pas en paix avec Dieu. Je parlais une fois avec on faisait de l'évangélisation, j'ai dit, mais monsieur, ne voulez-vous pas être réconcilié avec Dieu ? Le monsieur m'a regardé étonné, il m'a dit, mais je ne suis pas fâché avec lui. J'ai dit, mais lui, il est fâché avec vous. Que les gens le sachent ou non, ils ont besoin de la paix avec Dieu. Et cette paix n'est acquise que par le sang de Christ. Il a fait la paix par le sang de Jésus. Et de ce fait, septièmement, de ce fait, par le sang de Christ, maintenant nous lui appartenons. On appartient à Dieu par le sang de Jésus. 1 Pierre 1, 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Racheté, ça veut dire que le prix de l'achat a été payé. Il y a eu une transaction, il y avait un prix à payer et le nouvel acquéreur a payé le prix. Il s'est enquis de savoir combien était le prix et il a payé le prix. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, on a souvent dit que le salut est gratuit et quelque part, il n'y a rien de plus faux. Le salut n'est pas gratuit, le salut a été payé. Le salut est la seule chose qui vaut très cher parce que le salut a coûté la vie du Fils de Dieu. Alors il est gratuit pour celui qui le reçoit parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a payé. Mais le salut n'est pas gratuit. Le salut a été payé. Christ nous a rachetés. Chacun d'entre nous maintenant, nous lui appartenons exactement comme quand vous allez, je ne sais pas où, à la Migros, vous achetez quelque chose, eh bien ce que vous avez acheté maintenant vous appartient. Vous en êtes propriétaire, vous avez payé le prix, c'est à vous. Et vous pouvez donc en faire ce que vous voulez, mais aussi vous avez autorité pour le garder, vous avez autorité pour le protéger, vous avez autorité pour lui donner une valeur. Nous avons été rachetés par le sang de Christ. Il nous garde et ne permettra pas qu'on nous vole parce qu'il est puissant pour garder son bien. Huitièmement, nous sommes rentrés par le sang de Jésus dans une alliance avec Dieu. C'est une nouvelle alliance. Matthieu 26, 28, c'est ce que nous avons rappelé tout à l'heure en prenant le repas du Seigneur. Matthieu 26, 28, nous avons rappelé que c'est une alliance que nous avons avec Dieu. Car ceci, dit Jésus, est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. C'est le sang de l'alliance. Jésus est venu faire une alliance avec nous. Et cette notion de Dieu qui fait une alliance m'a toujours paru quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand quelqu'un fait une alliance, il confesse par là même qu'il a un besoin. Si quelqu'un est tout puissant, il n'a pas besoin d'alliés. Si quelqu'un est au-dessus de tout, il n'a pas besoin d'alliés. On fait des alliances quand on a besoin d'assurer sa position. Quand on a besoin de se protéger, quand on a besoin de force, quand on a besoin de... Parce que quand on est incertain, pourquoi Dieu aurait-il besoin d'alliés ? Vous imaginez, et puis quel allié il a choisi, vous voyez ? Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'alliés ? Mais Dieu n'a pas besoin d'alliés. Et pourquoi prendre des alliés aussi faibles ? Misérables. C'est mieux que minables, hein ? pourquoi Dieu aurait-il besoin d'alliés ? C'est pas que Dieu a besoin d'alliés, mais il sait que nous avons besoin d'être alliés avec lui. Alors Jésus est venu pour nous proposer par son sang une alliance. Dans cette alliance, Dieu s'est engagé. Nous, nos alliances sont toujours faillibles parce que nous ne sommes pas réellement capables d'être parfaitement fidèles. Mais Dieu est parfaitement fidèle. Donc si Dieu est notre allié par le sang de Jésus, alors nous avons en lui un allié définitivement sûr. Alléluia. Moïse, dans l'ancienne alliance, tout était fait avec le sang et était aussi le garant de l'ancienne alliance. Je ne vais pas lire tout ça. Moïse répandit le sang et il a dit au peuple, voici le sang de l'alliance. Mais c'était l'ancienne alliance, celle dans le sang des animaux. Et celui qui ne marchait pas dans l'alliance était retranché du peuple. Mais nous, quand on a pris ce repas tout à l'heure, comme l'a très bien dit Christophe, on ne refait pas le sacrifice de Christ, mais nous vivons dans la continuité de cette alliance qui a été contractée entre nous et Dieu par le sang de Jésus. On n'est pas dans l'Eucharistie, c'est pas les sacrements. Et cette alliance, évidemment, nous garantit l'éternité. Jean 6, 54, Jésus a expliqué dans ce chapitre bien mieux ce qu'était cette alliance dans son sang. Il a dit, 6,51, il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans la vie éternelle. La vie éternelle ne va pas commencer le jour où nous mourrons, parce que le jour où nous mourrons, c'est notre condition de vie qui va changer. Mais nous avons déjà la vie éternelle. La vie éternelle, le mot éternel est peut-être un petit peu faux, parce que éternel, ça nous fait juste penser que ça va durer longtemps. Mais c'est pas la vie éternelle, c'est pas juste le fait que ça ne s'arrête pas. C'est avant tout, c'est une qualité de vie. Avant tout, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui a une grande valeur. La vie en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Quels sont ceux qui sont sûrs d'être déjà dans la vie éternelle? Est-ce qu'il y en a? Bon, les autres, venez me voir après. Il faut qu'on parle. Vous savez, même si c'est pas que la question de la durée du temps, mais quand même. L'éternité, c'est surtout long quand on est mal placé. Ne prenez pas le risque de ne pas savoir où vous serez pendant l'éternité. Ne prenez pas ce risque. Venez à Jésus. Laissez Jésus mettre en vous cette puissance de vie éternelle. Et enfin, nous arrivons, vous voyez, vous ne perdez pas courage, dixièmement, ce salut n'est pas un salut individuel, mais il s'inscrit dans la famille de Dieu. Acte 20, 28 nous rappelle que le sang de Jésus a créé une famille autour de lui. Acte 20, 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Voilà la fin du verset. L'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous voyez, souvent on parle du salut seulement sous l'aspect individuel. Chacun d'entre nous, nous avons reçu le salut. Et on est, nous les Occidentaux, on est très très individualistes. Les Français le sont plus que les Occidentaux en général. Voilà. Nous, on est... Mais bon, les Suisses, je ne sais pas. Non? Oui? Oui. Et alors, donc, généralement, on a tellement pris l'habitude de parler du salut comme d'une réalité qui est juste entre moi et Dieu, et ce n'est pas faux. Mais si on ne le présente que comme ça, on oublie, on occulte que Dieu ne l'a pas fait juste pour ça. Dieu ne nous a pas juste sauvés pour qu'on soit les uns à côté des autres. Dieu nous a créés pour que sauvés, nous soyons tous, nous constituions tous ensemble la famille de Dieu. C'est l'Église qu'il s'est acquise par son sang. Donc on ne peut pas juste dire, ben moi je suis sauvé. Non, non, toi tu fais partie de la famille de Dieu et tu n'es pas complet en toi-même. Personne n'est complet tout seul. Tu existes seulement parce que tous ceux qui sont là à côté de toi sont aussi un membre de toi-même. Hein, c'est comme dans un arbre il a beaucoup de branches. Hein, tu peux regarder ton voisin à côté, tu dis, bonjour, jolie branche. On ne dit pas vieille branche, mais vous pouvez vous reconnaître, on se reconnaît comme étant la famille de Dieu, comme étant la famille de Dieu. Voilà, la victoire, le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui nous a donné la victoire sur le diable, hein, sur le malin, sur toutes les puissances, hein, tout ce qui est satanique, démoniaque, etc. C'est pas juste une histoire du Moyen-Âge, hein, et puis des représentations bizarres avec des êtres tout rouges, des oreilles pointues, et puis des tridents, etc. Non, non, non. Toutes ces réalités existent réellement. Nous vivons dans un monde qui est spirituel. Seulement, l'Occident est devenu tellement matérialiste que c'est comme si les choses matérielles, les objets, les trucs machins, nous semblent être devenus la vie. Mais c'est juste l'extériorisation. Et si un chrétien ne sort pas de ça, alors il vit à peine une moitié de vie parce qu'il ignore que le monde est avant tout un monde spirituel. La meilleure preuve, c'est que ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui n'est pas matériel, durera toujours, alors que notre corps, un jour ou l'autre, sera mangé par la vermine. Je m'excuse, c'est pas... Oui, à midi moins le quart, c'est pas bon. Mais il faut ouvrir les yeux. Est-ce que vous vivez dans ce monde spirituel? Est-ce que quelques-uns ne vivent pas dans ce monde spirituel? Il y a des chrétiens qui ignorent tout ça. Ils ignorent tout ça, ils vivent comme si le monde spirituel n'existait pas. Beaucoup de chrétiens disent, oui, les trucs de démons, oui, ça existe. Ouh, je laisse mon pasteur s'occuper de ça. Mais je vais dire une chose. À ceux qui disent, moi je ne m'occupe pas du diable, si toi tu ne t'occupes pas de lui, ben, lui va s'occuper de toi. Mais je ne veux pas vous faire peur, mais parce qu'il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. La vie chrétienne ne consiste pas à venir à l'église de 10 à 12 le dimanche matin. La vie chrétienne ne consiste pas à être un tout petit peu plus moral que l'ensemble des gens qui nous entourent. La vie chrétienne, c'est un engagement dans un monde spirituel dans lequel nous existons parce que nous sommes sous le sang de Jésus. Bien sûr, c'est des notions autour de nous, c'est des notions qui sont étranges. Et il faut, pour les gens qui ne connaissent pas le message de l'Évangile, bien sûr, il faut prendre le temps de les expliquer comme il faut. Parce que sinon, pour beaucoup autour de nous, c'est étrange, ça leur paraît même absurde. Imaginez un inconverti qui rentre dans une église évangélique comme ça, et puis il tombe juste au moment où on chante « Lavé dans le sang de l'agneau ». Le gars, il ne connaît pas. Il dit « Lavé dans le sang d'un agneau ». Ben, il ressort, il dit « Les gars, ils sont... » Non, mais là, les gars, ils sont fondus là-dedans. Hein? Il rentre chez lui, il dit « Tu sais pas quoi ?» Je suis tombé chez des fous, des mystiques. Les gars, dans leur secte, ils se lavent dans le sang d'un agneau. Il y en a des graves quand même, hein? Parce qu'il faut expliquer. Mais ceci dit, je crains que pour certains chrétiens, c'est juste, ce n'est pas étrange, dans leur tête, mais ils ne vivent pas avec. Ils sont juste accoutumés à la culture et à la terminologie. La terminologie ne les surprend plus. Mais si je leur demandais maintenant quelle est la dernière fois où tu t'es confronté au monde spirituel par le sang de Christ, ils ne peuvent pas me donner un exemple. Alors le monde spirituel existe pour qui ? Juste pour les autres ? Ou c'est juste pour ceux qui sont dans des difficultés psychiques ? Frères et sœurs, Christ a remporté pour nous une victoire sur le diable et sur les puissances du malin. Apocalypse 12, 11, un verset que, en général, les gens connaissent bien. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Que Christ ait vaincu par le sang de l'agneau, ça on est d'accord. Mais le verset dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et il ajoute, et à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire que c'est aussi notre engagement. Frères et sœurs, la question, pour nous, c'est pas... Pierre disait, reprenant une image de l'Ancien Testament, il disait, nous sommes sous l'aspersion du sang. Mais aujourd'hui, ça c'est juste une image empruntée à l'Ancien Testament. Aujourd'hui, les chrétiens ne vivent pas sous l'aspersion du sang. Aujourd'hui, nous vivons avec le sang de Christ qui est au-dedans de nous. Quand nous avons pris tout à l'heure le repas du Seigneur, la coupe, on n'a pas fait l'aspersion. Quand on a pris cette coupe, on devait en boire. Jésus a dit, prenez et buvez-le. Et pourquoi Jésus a dit de le boire ? Ben parce que c'est la seule façon de faire entrer quelque chose au-dedans de nous. Dans l'ancienne alliance, le sang, c'était la surface. C'est pourquoi c'est pas un traitement définitif, c'était juste pour couvrir les péchés, pour couvrir les pécheurs. Mais Jésus n'est pas venu pour nous apporter une couverture. Jésus nous dit, mon sang, prenez-le, buvez-le. Il faut qu'il rentre au-dedans de toi pour qu'il te lave à l'intérieur. Alors quand le sang rentre dedans, le sang te rentre dans toi et il te lave dedans. Et il détruit le péché, il annihile le péché, il fait disparaître le péché. C'est ça la vie chrétienne. Et il n'y a pas d'autre solution, et il n'y en aura jamais d'autre. Dans l'histoire de toute la création, de tout l'univers, il n'y aura jamais d'autre solution. Seulement, c'est la seule solution. Frères et sœurs, ne vivons pas comme si le christianisme était une espèce de culture. Ce n'est pas une culture, ce n'est pas une morale, ce n'est pas un style de vie, ce n'est pas une habitude. Le christianisme, c'est Christ. Le christianisme, c'est Christ. Frères et sœurs, est-ce que Christ est en nous ? Est-ce que Christ vit en nous ? Est-ce que tu as la puissance ? Et tu l'as parce que Christ est en toi. Seulement, il faut vivre avec. Il faut rentrer dans cette détermination de vivre une vie spirituelle. Une vie spirituelle. Si tu dois aujourd'hui, maintenant, pendant que je te parle, te rendre compte qu'une majeure partie de ta vie est occupée par autre chose que Christ, tu ne vis pas en disciple de Jésus. Excusez-moi. On peut pas séquencer la vie chrétienne avec des petites heures. On est chrétien le dimanche matin, et puis on est chrétien encore, je ne sais pas, il y a un jour de la semaine ou un autre soir, et puis on est chrétien de temps en temps. Le reste du temps, on est comme tout le monde. Mais ça, c'est pas une alliance. Une alliance, c'est permanent. Une alliance, c'est quelque chose qu'on vit toujours. Une alliance, elle est faite dans le sang de Jésus que nous avons reçu au-dedans de nous. Frères et sœurs, purifiez vos consciences. Purifiez vos consciences devant Dieu. Mais marchez dans cette assurance. Personne ne peut adorer Dieu. Personne ne peut adorer Dieu avec assurance s'il n'a pas cette certitude de la purification par le sang de Jésus. Parce que personne ne peut lever les mains en esprit et en vérité si ses mains sont encore tachées. Mais pour que nous soyons sûrs devant Dieu, pour que nous puissions adorer réellement, il faut que nous soyons sûrs d'être purifiés. Amen. Seigneur, nous allons prier. Seigneur, je te prie de bénir chacun d'entre nous. Seigneur, bénis cette église. Seigneur, nous tous qui sommes là, nous avons tous été lavés, purifiés par le au même prix. Personne n'avait mérité quoi que ce soit. Personne n'avait fait mieux. Personne n'était pire. Nous avons tous été purifiés par le sang de Jésus. Seigneur, je te prie pour que dans cette assemblée ce matin, la famille de Dieu, le peuple de Dieu, pour que ce matin, cette puissance, cette conviction par le Saint-Esprit, cette conviction du sang de Jésus puisse gagner chacun. Je te prie maintenant, Esprit de Dieu, je te prie de passer dans les rangs et je te prie, Seigneur, que cette démonstration de la puissance, de la victoire du sang de Christ, gagne tous les cœurs. Hein. Gagne tous les cœurs, maintenant, au nom de Jésus. Je crois que quelques-uns d'entre vous sont dans l'incertitude par rapport à la puissance du sang de Jésus. Quelques-uns d'entre vous, vous êtes en train, en même temps que je parle là, maintenant, vous êtes en train de vous dire, hein, mais est-ce que c'est assez puissant? Est-ce que le sang de Jésus est assez puissant pour me libérer? Et vous avez des doutes sur ça. Vous avez des doutes, vous dites, mais est-ce que le sang de Jésus peut réellement me libérer? Est-ce que le sang de Jésus peut réellement me couper, me séparer de ces choses méchantes qui tiennent sur moi? Le Seigneur te dit maintenant, mets-moi à l'épreuve, hein, et tu verras si mon sang n'est pas capable de te libérer. Car je suis venu afin de délivrer les captifs. Le Fils de Dieu est venu afin de libérer les captifs. Et celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et maintenant, au nom de Jésus, je déclare la liberté de Christ pour les enfants de Dieu. En particulier pour ceux qui sont rentrés ce matin, encore accablés par le sentiment de culpabilité, et ceux dont les consciences ne sont pas purifiées. Maintenant, au nom de Jésus, regardez à Jésus. Recevez maintenant par la foi, la purification de votre conscience, hein, afin que vous sortiez d'ici purifiés, lavés. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je crois qu'il y a 2-3 personnes encore qui ont aussi besoin tout simplement de décider d'abandonner le péché. Le sang de Jésus est efficace dans la repentance. Il est efficace pour ceux qui croient en Jésus. Mais le sang de Jésus ne peut pas s'imposer à celui qui ne le veut pas. Ça te paraît difficile maintenant. Tu dis, mais c'est difficile. Il y en a 2 ou 3 ce matin, vous avez besoin maintenant de décider d'abandonner un péché précis. Dans le secret de votre cœur, dites-le maintenant, Seigneur. Même si tu as l'impression que tu n'es même pas capable de tenir ton engagement, mais c'est le Seigneur qui te donnera la force. Mais décide maintenant que tu abandonnes. Décide que tu abandonnes. Tu dis, moi je veux que le sang de Jésus me purifie et me lave. Je ne veux plus jamais refaire ça. Au nom de Christ. Car je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur que ta grâce nous visite maintenant. Visite toute cette église. Hein. Visite cette église, Seigneur Jésus. Merci Seigneur de leur donner, Seigneur, aussi une grande liberté dans le monde spirituel. Hein. Une grande liberté dans le monde spirituel. Que toute puissance méchante, je vous interdis de toucher cette église. Hein. Je vous interdis d'influencer qui que ce soit dans cette église, hein, au nom de Jésus, car Christ est vainqueur. Hein. Amen. Merci Seigneur. Amen.